Louis Pergaud, Le roman du Miro, Chien de chasse, deuxième partie, chapitre 3. Au cours des chasses qui suivirent et dont plusieurs furent mémorables, Miro, aidé des conseils de son maître ou guidé par l'exemple de Bellone ou inspiré par son flair supérieur et sa presque infaillible initiative, apprit bien des ruses et des ficelles de son métier de courant. Il sut ainsi qu'il ne faut jamais perdre son temps à ravauder en plaine, sur un pâturage, qu'il faut immédiatement chercher la rentrée. Ce fut Lisée qui le lui enseigna, et il se rendit très vite compte que son maître avait raison, puisqu'il manquait rarement de débusquer l'oreillard quand il suivait docilement ses conseils ou ses ordres. Il apprit à aller doucement derrière les levraux, qui ne vont jamais loin, mais zigzagent, contournent, cabriolent, se font rebattre et vous obligent, pour les suivre sans faute, à prendre 100 fois plus de précautions qu'avec les grands bouquins et les vieilles oases. Il sut que tous les capucins, pour quitter le chemin qu'ils suivent, quand ils veulent se faire perdre, font de grands sauts et retombent les 4 pieds réunis. Et lorsqu'il lui arriva de se trouver perplexe dans ce cas chenilleux, Bellone lui enseigna à rebattre à droite, puis à gauche de la route pour retrouver le nouveau sillage. De même, les doublés et les pointes ne l'embarrassèrent qu'au début, et ce fut encore la chienne qui lui enseigna à décrire autour du point où les pistes se mêlent un ou plusieurs cercles de rayons variables afin de retrouver la nouvelle. Il n'ignora pas longtemps que certains lièvres, audacieux et roublards, longent quelquefois une haie d'un côté, puis reviennent de l'autre, parallèlement aux chiens qui ne sont d'autre guère, et repassent en le narguant à 2 pas de lui. Aussi, eut-il en même temps que le nez, l'œil et l'oreille au guet, quand d'aventure il se trouva dans ce cas. Il apprit qu'au coup de fusil, un chien de chasse, un vrai bon chien, doit tout lâcher pour filer à vertigineuse allure auprès du maître qui a tiré. Car un chasseur, quand donne les chiens, ne doit faire feu que sur un gibier d'importance. Et il faut que son collaborateur à poil soit là tout de suite pour l'aider, le cas échéant, à poursuivre et prendre ou achever ou retrouver la pièce tuée ou blessée par son plomb. Il sut distinguer dans la voix de la corne le coulon, qui elle le confrère éloigné du roulement qui le rappelait lui ou Bellone ou Ravageau. Il apprit, et très vite, en chassant avec la chienne sa compagne, à reconnaître les coups de gueule qui indiquent que le frais est bon ou médiocre ou mauvais. Il sut aller à la voix comme un vieux soldat marche au canon, et cette habitude avec les camarades devint bientôt réciproque. Bref, il devint un bon chien. Et il fallait que les matins fussent bien mauvais, que le frais fût insignifiant, que le canton fût bien pauvre en gibier, pour qu'il n'arrivât pas à débrouiller coûte que coûte une piste et à lancer un capucin. Sa tactique varia selon que les maîtres étaient avec eux ou qu'il se trouvât seul avec Bellone, car il lui arriva souvent de fois, quand les patrons n'avaient pas le temps, de partir soit tout seul, soit de compagnie avec la chienne. Les bons cantons, les beaux endroits, lui devinrent familiers. Au bout de quelques chasses, il connut même personnellement, si l'on peut dire, certains oreillards qu'il devait certainement distinguer des autres à leurs frais particuliers, à un détail odorant insensible à tout autre qu'à lui. De même que Lisée, son maître, reconnaissait les citoyens en question au gîte choisi, ou au domaine bien délimité qu'il occupait depuis longtemps. Un bon chien doit toujours ramener son lièvre au canton du lancer. Miro, bon gré mal gré, après des circuits plus ou moins longs, ne perdit jamais la piste. Et, sauf des cas exceptionnellement rares, il ramena presque toujours dans la direction que devait occuper Lisée le capucin qu'il courait. Maints lièvres pourtant lui donnèrent du fil à retordre, car au bout de peu de semaines, les adultes, les lièvres d'un an, forts de l'expérience d'une chasse, n'ignorèrent plus qu'ils avaient affaire à forte partie. Dès qu'ils entendaient à proximité de leur gîte le timbre du grelot ou les éclats de voix de Miro, ils n'attendaient point qu'il vînt les dénicher, trop certains qu'il y parviendrait tôt ou tard, malgré les savantes précautions de la remise. Et, en grand mystère, fort silencieusement, ils se dérobaient, oreilles rabattues, pattes allongées, filant droit devant eux pour gagner le plus possible de terrain et aller très loin, très loin, préférant les aléas d'une poursuite et d'une course en pays inconnu au hasard d'un retour dangereux, souvent marqué pour les camarades par le tonnerre éclatant et mortel d'un inopiné coup de fusil. Miro les suivit quand même, et malgré tout, patient et fort, avec l'acharnement du vrai limier. Il les retrouvait dans leur remise lointaine, les relançait de nouveau, les poursuivait jusqu'à épuisement. Et comme il était robuste, malheur aux lièvres dont les pattes n'étaient pas bonnes, dont les jarrets n'étaient pas d'acier, dont les ruses n'étaient pas originales et infaillibles. Tôt ou tard, Miro arrivait à lui, lui cassait l'échine et le dévorait. Cela ne traînait guère. La course l'avait affamé. La poursuite, si longue, en le fatiguant, l'avait enfiévré et mis en rage. Et, du ventre ouvert de la victime, les tripes chaudes sortaient bientôt, qu'il avalait presque sans les mâcher. Il léchait le sang avec soin, puis broyait les côtes sous ses dents, dépiautait le râble musculeux et passait au train de devant. Souvent, il abandonnait la tête pour revenir, quand sa fringale n'était pas apaisée, aux cuisses de derrière, fermes et charnues, qu'il déglutissait jusqu'à la dernière bouchée. Il se flanqua ainsi des ventrées gargantuesques, à la suite desquelles, l'estomac garni, la peau du ventre tendue, il reprenait d'un trot alourdi, après s'être préalablement orienté, le chemin de Longeverne. Il suivait rarement les grandes routes et les voies importantes, préférant sous bois les petits sentiers ou en rase campagne l'abri des haies et des murs, le couvert des récoltes, pour se dissimuler au regard des inconnus malveillants. Car Miro n'ignorait pas que certaines femelles, genre guélotes, sont toujours à craindre et qu'il ne faut point, en dehors de son village, se fier aux sales moutards de tout sexe qu'un honnête chien comme lui ne peut décemment effrayer ni mordre et qui profitent lâchement de votre bonté pour vous flanquer, eux, toutes sortes de projectiles sur le dos ou dans les pattes. Dans les débuts, lorsque son lièvre était trop gros, Miro, une fois rupu, abandonnait le reste. Plus vieux, avec l'expérience et les leçons de la faim, il dut réfléchir sans doute et conclure que cette pratique était tout simplement stupide. Dès lors, quand il ne mangea pas tout, il rapporta à sa gueule, du côté de Longeverne, le quartier de derrière de sa prise. Bien malin eussent été ceux qui l'auraient attrapé dans ces cas-là. Souvent, pourtant, il fut poursuivi par des hommes. Mais il savait fort à propos prendre le pas de course, se défiler derrière les haies, doubler les murgées et les buissons touffus, et gagner la forêt, refuge absolument inviolable aux voleurs à deux pattes. Arrivé à quelques 500 mètres du village, dans un champ de pommes de terre le plus souvent, là où la terre est plus meuble que partout ailleurs, il creusait un trou, y enfouissait sa bidoche qu'il rebouchait avec soin, puis rentrait à la maison paisiblement. Le jour suivant ou le surlendemain, il venait la reprendre dès que son estomac réclamait, car la guélotte, qui l'avait toujours en grippe, oubliait assez souvent, les lendemains de fugue, de lui tremper sa soupe, si Lisée d'aventure ne l'en priait pas énergiquement. Le chasseur ne soupçonnait pas son chien de tant de roublardise. Il fut littéralement ébahi le jour où il le surprit en train de s'offrir en guise du goûter un succulent râble d'oreillard. Miro, cependant, ne fut pas le moins ennuyé de la découverte, car son maître, jugeant que son compagnon avait eu largement sa part, lui reprit sans façon aucune son quartier de lièvre et, après l'avoir lavé, le fit mettre à la casserole. Ce fut une leçon. Et le chien, à dater de 7 heures, prit bien soin de se dissimuler quand il se rendit à ses caches. Les prises, toutefois, ne couronnaient pas chaque poursuite, et plus souvent qu'il ne l'eût désiré, Miro, après une journée exténuante, rentra à la maison, harassé et vide. Ces jours-là, sa patronne hurlait, car on ne pouvait pas, disait-elle, rassasier la viosse. Cependant, les lièvres finissaient fatalement par avoir le dessous. Il y eut pourtant un oreillard qui, toute une saison, se paya la tête de Lisée et de son chien. Un vrai sorcier que ce cochon-là, jurait le braconnier. Et Miro le connaissait bien, lui aussi cet impayable animal. C'était un vieux bouquin, prince sans doute des Capucins de Longeverne. Et d'ailleurs, qui, certains jours, on ne sait pourquoi ni comment, était venu élire domicile dans un coin touffu du fait, au centre d'un labyrinthe de sentiers, de tranchées, de chemins et d'autres voies, plus ou moins frayées. La lutte commença un beau matin givré de novembre, que la terre sonnait sous le talon, où le limier trouva son frais à 50 sauts de son gîte, et, sans perdre de temps, vint, après quelques coupes savantes, lui fourrer sans façon le nez au derrière. Le vieux coureur des bois comprit qu'il avait affaire à un maître, et, bondissant de son gîte, allongé de toute sa longueur, ventre à terre, yeux tout blancs, moustache brandie, fila, tandis que la bordée coutumière de coups de gueule suivait son déboulé. Miro, si bien découplé qu'il fût, ne put longtemps le suivre à vue, car le courte queue, qui n'ignorait sans doute rien de l'homme et de ses coups de fusil, avait grand soin pour se défiler, de profiter de tous les abris et de tous les couverts utilisables. Au bout de 5 minutes de ce train d'enfer, l'aboi du chien était à plus d'un kilomètre derrière lui. Il avait le temps. Le capucin fit des pointes, des doublés, des crochets, puis, après un raisonnable détour, suffisamment long pour dérouter un moins habile que son poursuivant, il redescendit l'un des chemins qui menait au bas du fait, à la croisée de toutes les voies où ces imbéciles d'humains venaient généralement attendre ses congénères, mais où il se gardait bien de jamais passer. Dès qu'il arriva à 2 ou 3 portées de fusil de ce poste dangereux, il s'arrêta, s'assit sur son derrière, tourna les oreilles dans la direction des 4 vents, pissa un coup, ressauta au bois, fila vers le haut des jeunes coupes et disparut. Lorsque Miro, qui n'avait point perdu de temps au doublé du citoyen, arriva quelques instants après, qu'il reprit la piste coupée et le suivit jusqu'au haut des jeunes coupes, hors du fossé du bois, il trouva quelques pointes qu'il ne suivit pas selon sa vieille tactique. Mais il tourna tout alentour de l'endroit pour retrouver la bonne piste et ne trouva rien. Il raccourcit le diamètre de son cercle. Rien encore. Il le doubla. Toujours rien. Il suivit, l'une après l'autre, toutes les pistes. Plus de frais. Alors, ahuri et furieux, Miro jappa, gueula, brailla, hurla comme jamais il n'avait fait. Élisée, étonnée grandement, vint le rejoindre, ahuri lui aussi, de voir pour la première fois en défaut ce chien admirable, cette maîtresse bête, ce nez extraordinaire, ce roublard des roublards. Il n'y avait point de buisson dans la plaine, et la coupe, récemment nettoyée, était tondue comme un champ d'étheule. Le chien et l'homme longèrent des 2 côtés le mur d'enceinte, pierre à pierre, abri par abri. Ils visitèrent le pied de tous les arbres qui demeuraient, baliveaux, chablis, modernes, anciens. Rien, rien, rien. ils s'en allèrent bredouille. 2 jours après, Miro vint relancer son animal, que Lisée, cette fois, attendit sur le chemin où il était passé le premier jour. Mais l'oreillard en prit un autre et vint se faire perdre, tout comme l'avant-veille, au même endroit. 2 jours après, cela recommença. « Ne te bute donc pas, » disait Philomène à Lisée, qui lui proposait de l'accompagner dans sa chasse à ce phénomène unique en son genre. « Je le connais, ce salaud-là, c'est-à-dire que je n'ai jamais pu le voir, mais je l'ai chassé, on ne lui peut rien. » Lisée s'entêta, et chaque matin qu'il eut de libre, ils retournèrent, lui et Miro. À la fin, dès le lancer, il monta à ce poste extraordinaire afin d'en avoir le cœur net. Ce jour-là, le lièvre, qui était assez vieux pour ne pas se fier seulement à son oreille, mais qui savait aussi sans doute voir un peu et renifler, approcha bien de la coupe, mais il n'y entra point et alla se perdre loin, loin, très loin, au tonnerre de Dieu, comme disait le chasseur. Et toute la saison, ils s'acharnèrent, lui et Miro, à poursuivre ce lièvre fantôme, ce capucin sorcier, que personne n'avait jamais pu joindre ni voir, qui crevait les chiens les plus forts et roulait les meilleurs. Mais chaque fois que Lisée montait en haut de la coupe, le lièvre n'y venait pas, et chaque fois qu'il se postait ailleurs, Miro, hurlant de rage et fou, l'œil hors de l'orbite, le poil hérissé, venait le perdre là et s'en retournait, la tête basse et la queue entre les pattes, malade de dépit et de fureur, vers son maître Lisée, qui sacrait bien de toute sa gorge, comme un bon braco qu'il était, mais n'y pouvait rien tout de même. Enfin, un jour de février, la chasse étant close depuis une quinzaine, et lui n'ayant pas son fusil, Lisée, à 200 pas de l'endroit, caché derrière un gros chêne, eut la clé de l'énigme. Le cœur tapant d'émotion, il vit son oreillard sauter du bois, faire ses doublés et ses pointes, revenir à son centre d'opération, et d'un seul saut bondir en l'air, d'un élan fou, comme s'il escaladait le ciel pour retomber. Ah, ça ! La coupe était nette. Où donc était-il retombé ? Lisée, de derrière son arbre, écarquillait les quinquets. Le lièvre avait disparu. Celle-ci, par exemple, elle était forte. Miro, en râlant de rage, car ce n'était plus des abois qu'il poussait, arriva juste à pic pour se trouver nez à nez avec son maître. Celui-ci, sûr ou presque, de n'avoir pas eu la berlue et blême d'émoi, regardait de nouveau par tout le sol, examinant méthodiquement chaque pouce de terrain où son gibier aurait pu se trouver. Ce devait être au pied de cette souche. Mais non, rien. Il fallait qu'il se fût envolé dans le ciel. Lisée le braco, Lisée le mécréant, pâlit presque et trembla un peu. Ses regards instinctivement quittèrent le sol pour interroger l'azur. Et... ah, sacré nom de Dieu ! Au sommet de la vieille souche pourrie, dédaignée par les bûcherons, à 4 ou 5 pieds au-dessus du sol, entre quelques rejets gris comme le dos du capucin qui se fondait entièrement avec eux, son asticot, aplati, immobile, les oreilles rabattues, sans souffle, n'émettant aucune odeur, et, bon Dieu, aussi souche que la souche elle-même. Que de fois le braconnier, son fusil à la main, avait passé à un pas de lui, inspectant le pied de la souche, sans songer le moins du monde à regarder dessus. On dit tant que les lièvres ne font pas leur nid sur les saules. « Ça t'apprendra, idiot » rageait-il, à sortir sans ton flingot sous ta blouse. Il ramassa un rondin pour en asséner un coup sur le râble de l'oreillard. Mais l'autre, qui n'avait jamais bronché les fois d'avant, ce jour-là, avant que Lisée eût levé le bras, se détendit comme un ressort, repartit d'un train d'enfer avec Miro à ses trousses, Miro qui le chassa tout le reste de la journée, mais ne la ramena point et ne rentra pas non plus de la nuit.